Donc bonjour, indépendamment de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi pour mes 7 minutes de retard. Hop. Donc je vais attendre 2 à 3 minutes que les gens puissent se connecter. Pour ceux qui et celles pardon qui viennent d'arriver, je vous invite à partager la vidéo. Comme je le dis souvent, c'est pas pour moi, mais c'est pour que l'évangile soit propagé. En plus, aujourd'hui, on va encore voir quelque chose de très concret sur l'histoire de Jonas, que j'ai appelé le dernier messager. Donc bonsoir et bon sabbat, indépendamment de là où vous êtes. Bon sabbat pour ceux qui sont en France, pré-bon sabbat pour ceux qui sont à Montréal. Bonsoir Eliane, bon sabbat à toi aussi. Bon sabbat à toi aussi Laurent Villet. La famille Sesto. Bonsoir Johan. Passe le bonjour aussi, Johanna, pardon, le bonjour ou le bonsoir à Gina aussi, s'il te plaît. De la part de Amiel et de ma femme aussi. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver, donc je vous invite à partager le lien. Moi-même, je vais partager le lien. Sur cette histoire magnifique de Jonas que j'ai appelé le dernier messager tout court. Donc on va commencer d'ici 2 minutes, le temps que aussi que je partage le lien. Et bonsoir et bon sabbat, mon frère Kylian. Espérons que tu vas bien et que tu passeras une bonne année en Jésus-Christ. On va commencer d'ici 2 minutes, 2 minutes. Deux minutes. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en Jésus-Christ. Bon sabbat aux Français. Pré-bon sabbat aux Montréalais. Bah écoutez, on va commencer. On va pas perdre de temps. On va voir ensemble cette étude ou méditation, dépendamment de comment vous appelez ça, sur Jonas. Jonas. Donc je vous invite à prier indépendamment de là où vous êtes. Et on va partager ensemble cette méditation, ce commencement de sabbat ensemble, par l'étude de la parole et par une prière en commençant. Prions. Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier pour ta parole, nous voulons te remercier pour ta fidélité surtout envers nous, Père. Nous te remercions pour ton amour, Gloire soit rendue à ton nom, Père, car tu es lent à la colère, miséricorde, riche en bonté. Ne souhaitant pas que quiconque périsse, mais la vie éternelle en Jésus-Christ, Père. Et nous te prions à cet instant pour le sang précieux de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous, afin que tu puisses nous purifier, nous laver dans ce sang merveilleux, que tu puisses renouveler, Seigneur Dieu, les sentiments qui étaient en Christ, que tu puisses, tendre Père Céleste, changer notre cœur à cet instant, afin qu'il soit un bon réceptacle pour ta parole. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous transformer par cette parole, car c'est tout ce qui importe, que cette parole, Seigneur Dieu, nous transforme à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions aussi, Père, pour la seule puissance qui peut nous transformer, Père, ton Saint-Esprit, que tu puisses déverser ton Saint-Esprit sur tous ceux qui sont présents, tous ceux qui vont venir, tous ceux aussi, Seigneur Dieu, qui n'ont peut-être pas pu venir, n'ont pas pu assister, qui sont avec peut-être leurs familles respectives. Te prions, Seigneur Dieu, d'être avec ton Église aussi et tes dirigeants. Veuille nous accorder ce don précieux afin que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions nous donner le pouvoir, Père, de pratiquer ta parole dans notre propre vie. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le titre de cette étude qui s'intitule donc Jonas, le dernier messager. Jonas, le dernier messager. Je vous invite à aller dans Matthieu 12, le verset 38. Matthieu 12, le verset 38. Matthieu 12, à partir du verset 38. Et c'est Jésus-Christ ici qui va parler. Donc Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Qui fait partie donc de ce qu'on appelle les quatre évangiles. Bien que l'évangile soit partout dans la Bible. Matthieu 12, à partir du verset 38. On va lire ensemble, et je vais lire dans la Louis II. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, le verset 42, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a plus que Salomon. Il y a beaucoup de symboles ici. Matthieu 12 aussi, c'est beaucoup de symboles ici prophétiques. Mais ici, déjà, on va parler du contexte. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle aux scribes et aux pharisiens qui demandent un miracle. Et Jésus, qui avait s'il y aurait un modèle de connexion qu'on devrait avoir avec Dieu, c'est le modèle de Jésus-Christ avec son Père. Si vous voulez étudier ce qu'on appelle la foi de Jésus-Christ, il vous faut absolument étudier la foi que Jésus-Christ avait avec son Père. Et Jésus-Christ, à cause de la connexion qu'il avait avec Jésus-Christ, avec son Père, connaissait, grâce à cette connexion-là, le cœur des pharisiens et des scribes. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. La raison pour laquelle Jésus-Christ a répondu ça, c'est parce que justement, il connaissait le cœur de ceux et celles qui lui posaient la question. Et on sait que Jésus-Christ n'opérait d'ailleurs pas de miracle lorsqu'il n'y avait pas de foi. Par exemple, lorsque l'un de ceux qui étaient malades avait été guéri et qu'on a dû le porter sur le toit, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme-là? Il lui a répondu, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est par la foi que Dieu travaille pour opérer le sauvetage ou la délivrance. Donc là où il y a de l'incrédulité, de la mauvaise foi, tiens, c'est très marrant ça, Jésus-Christ ne pouvait pas faire de miracle. Donc ça, c'est pour le contexte de Matthieu 12, le verset 38. Et Jésus-Christ va leur dire, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et c'est ce miracle-là qui sera accordé donc à ce type de personne, c'est-à-dire aux scribes et aux pharisiens. Donc, ici déjà, mes frères et sœurs, on voit une comparaison, une allégorie, ou une typologie si vous préférez, entre Jonas et Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ utilise le mot « de même que », c'est-à-dire qu'il compare l'histoire de Jonas à son histoire à lui, lui étant aussi le fils de l'homme. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui était Jonas ? Parce que pour comprendre l'allégorie ou le parallèle que Jésus-Christ a fait avec lui-même, il nous faut comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Jonas. On va voir plusieurs leçons, mes frères et sœurs, et par la grâce de Dieu, ça va nous éclairer, pas seulement dans la connaissance, parce que la connaissance enfle, mes frères et sœurs, mais surtout, ça va nous aider dans notre propre expérience avec Jésus-Christ. Déjà, il faut comprendre le livre de Jonas. Jonas, livre après Daniel, etc., qu'on appelle le livre des petits prophètes. Jonas, dans le livre de Jonas, mes frères et sœurs, il y a 4 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, si je ne me trompe pas. Et il est découpé de cette manière-là. Le chapitre 1 nous parle particulièrement de l'appel de Jonas, que Dieu lui donne, d'aller à Ninive, et qu'il fuit. Et parce qu'il fuit, chapitre 2, il saute de la barque, ou du moins il se propose même, pour sauver ses camarades, de sauter de la barque et de tomber dans l'eau. Chapitre 2, il se retrouve donc dans le grand poisson, pendant justement 3 jours et 3 nuits. Et le chapitre 3 nous parle du retour à Ninive de Jonas, puisque dans le chapitre 2, il va, un peu comme Jacob, il va raisonner avec Dieu, il va prier Dieu, et Dieu va le délivrer. Et chapitre 3, il va donc retourner à Ninive. Et le retour à Ninive de Jonas va provoquer, comme Matthieu 12 le dit, par la prédication de l'évangile, la repentance du peuple de Ninive. Et chapitre 4, dont on ne parle pas souvent, mais on va voir pourquoi. On nous montre ici un Jonas qui n'est pas content parce qu'il a prophétisé et la prophétie ne s'est pas accomplie. La prophétie de Jonas, c'était quoi ? Que Ninive allait être détruite. Or, le peuple s'est repenti. Parce que le peuple s'est repenti, ça a donc attisé la miséricorde de Dieu sur le peuple qui a décidé de ne pas détruire Ninive. Voilà un petit peu pour comprendre le livre de Jonas d'une façon globale. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui était Jonas ? Et de quel miracle vraiment Jésus-Christ nous parle dans Matthieu 12 ? On va lire Jonas à partir du verset 1, le chapitre 1. Donc Jonas, c'est après le livre de Michée. Jonas 1 à partir du verset 1. Et on va essayer de comprendre ici, de déterminer d'abord qui était Jonas, parce que Jésus-Christ semble faire un lien entre le miracle de Jonas et lui-même. Jonas 1, le verset 1. On va lire ensemble. La parole de l'Éternel dans la version du second fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc ici, on nous donne une indication sur qui était Jonas en nous disant c'était le fils de qui ? On nous dit que c'était le fils d'Amittai, je ne sais pas si ça dit comme ça, ou d'Amittai. Voilà. Et on voit son appel, que Dieu lui dit d'aller à Ninive, et de crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. D'ailleurs, lorsque vous voyez le mot crier, méfiez-vous, parce que le mot crier ici ne décrit pas le volume de la voix dans l'hébreu et dans le grec, mais ça décrit ici l'intensité. C'est pour ça que dans le message des trois anges, lorsqu'on dit crier, on entendit d'une voix forte crier, etc., craignez Dieu et donnez-lui gloire. On ne parle pas ici de personnes, de femmes et de femmes qui vont crier sur la chair ou qui vont crier dans des études bibliques. On parle d'hommes et de femmes qui vont mettre une intensité dans le message. C'est-à-dire qu'il va être prêché avec une très forte intensité. Donc quand on dit ici crie contre elle, on parle d'une intensité ici que Dieu a dit à Jonas. Et le verset 3, on nous dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » On voit ici un Jonas, mes frères et sœurs, qui a peur de prendre ses responsabilités, qui a peur de l'appel de Dieu et qui refuse d'accomplir son appel. Ça devrait vous faire réfléchir, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, on peut être comme ce Jonas. Et on peut, face à nos responsabilités, essayer de fuir Dieu. Mais grâce au rendu à l'Éternel, c'est très difficile de fuir Dieu, voire impossible. Et ce qui se passe du verset 12 au verset 15, on nous montre Jonas qui se propose, comme il y a eu des tumultes dans la mer, il se propose qu'on le jette à la mer, parce qu'on l'accusait d'être la cause, et on le jette à la mer, le verset 15 au verset 16, et chapitre 2, il se retrouve donc dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Donc comme je l'ai dit ici, donc il y a une analogie qui est faite entre Jésus-Christ et Jonas, particulièrement avec la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'on sait que Jésus-Christ a été ressuscité au troisième jour, donc un dimanche matin. Donc il y a un lien qui existe. Ça va être la première étape de notre étude. Il y a un lien qui existe, mes frères et sœurs, entre Jésus-Christ et Jonas. Pas seulement le fait que, de la même manière que Jésus-Christ a passé 3 jours dans la tombe, Jonas aussi a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Mais il y a beaucoup plus d'analogies qu'on pourrait voir. Je vais en dire quelques-unes et ensuite je vais vous laisser le soin vous-même d'aller chercher ces analogies. La première analogie que j'ai notée, c'est que si vous lisez le livre de Jonas en entier, on dit que sa mission, c'était d'aller prêcher l'évangile aux habitants de Ninive. Les habitants de Ninive, c'était des Assyriens, donc c'était des gentils, entre guillemets. Et l'appel de Jonas, c'était d'appeler ce peuple-là à se repentir et à reconnaître que Jésus-Christ ou Dieu était la seule source de salut. Si vous lisez Jonas 1, le verset 1, et Jonas 3, le verset 1 à 2. De la même manière, ici, on voit une analogie qui est faite avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, sa mission était d'appeler, en tout cas sa mission sur terre, était d'appeler les hommes et les femmes, y compris d'ailleurs les nations païennes. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, on voit qu'il a brisé les frontières de l'évangile, en parlant par exemple avec la Samaritaine, qui était une femme en plus, etc., etc., et d'emmener ces personnes-là à la repentance et à faire une véritable alliance avec Dieu. On voit que Jonas, mes frères et sœurs, était prêt à sacrifier sa vie pour le salut de ses camarades à bord. Et on voit aussi que Jésus-Christ n'était pas seulement prêt, il l'a fait, à sacrifier sa vie pour le salut de tout un chacun, pour la réconciliation avec Dieu. On sait que Jonas a été enseveli dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours, et on sait que Jésus-Christ a été dans le tombeau pendant 3 jours. On sait que le troisième jour, Jonas est sorti du ventre du poisson. De la même manière, on sait que Jésus-Christ, le troisième jour, est sorti du tombeau. On sait aussi qu'après sa résurrection, lorsque Jonas est sorti du ventre du poisson, il est parti, il a continué sa mission, c'est-à-dire appeler les Assyriens à la repentance et au salut en Dieu. Et on sait qu'après sa résurrection, Jésus-Christ a poursuivi sa mission, puisqu'il est resté encore 40 jours, et qu'il a chargé les apôtres de propager l'évangile à toutes les nations. Mission, mes frères et sœurs, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, après l'ascension de Jésus-Christ dans le lieu très saint. Donc il y a beaucoup, mes frères et sœurs, de points ici. Beaucoup de points que vous pouvez regarder entre Jonas et Jésus-Christ. Mais il y a un point aussi, mes frères et sœurs, qu'on ne voit souvent pas. C'est que Jonas n'est pas seulement un type de Jésus-Christ, mais il est aussi un type d'une autre personne de la divinité, qui n'est pas le Père, qui n'est pas le Fils puisqu'on vient de voir Jésus-Christ, mais qui n'est autre que la personne du Saint-Esprit. Maintenant, comment voir ça? Dans Jonas 1, à partir du verset 1, je vous invite à relire, et on va relire maintenant en détail. Jonas, la parole de l'Éternel qui s'adressait à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Maintenant, vous savez, mes frères et sœurs, que lorsque vous voyez un nom dans la Bible, lorsque vous étudiez, posez-vous et étudiez toujours ce nom-là. Parce que les noms dans la Bible symbolisent un trait de caractère, ou les noms dans la Bible ont toujours une signification. Vous savez que le nom Jonas signifie « colombe » en hébreu. Le nom Jonas signifie « colombe ». Vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs? Il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Qu'est-ce que symbolise maintenant la colombe dans la Bible? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a une histoire en particulier dans la Bible, dans Jean 3, lorsque Jésus-Christ s'est baptisé, on a vu quelque chose, une colombe descendre sur lui. Et c'est d'ailleurs là où il a accompli, je crois que c'est la prophétie de Ésaïe 61, on nous dit « L'Esprit de l'Éternel fut sur moi ». Donc la colombe dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Donc Jonas est un symbole aussi de la colombe, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Maintenant, on nous dit que c'était le fils d'Amittai. Vous savez que Amittai, mes frères et sœurs, c'est vraiment un mot intéressant. Parce que le nom de son père, Amittai, veut dire en hébreu, véridique, ou vérité, ou fidélité. Donc Jonas, la colombe, était fils de Amittai, qui veut dire vérité, fidélité ou véridique. Vous ne voyez pas quelque chose, mes frères et sœurs. Dans Jean 14, à partir du verset 17, on nous parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Répété dans Jean 16, le verset 30, on nous parle de l'esprit de vérité parlant du Saint-Esprit, que Dieu va envoyer sur la terre lorsque Jésus-Christ remontera. Donc ici on voit la colombe à côté de la vérité, ou autrement dit l'esprit de vérité. Donc la Bible voulait qu'en regardant Jonas d'Amittai, on fasse aussi un lien, mes frères et sœurs, à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans notre vie, mais aussi prophétiquement, sur ce qui est arrivé au temps des apôtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous parle de Jonas, fils d'Amittai, qui descend à Ninive, et lorsqu'il descend à Ninive, boum, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes sont sauvées. Il y a l'œuvre de la repentance et beaucoup d'âmes sont sauvées. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit est descendu après que Jésus-Christ soit monté, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et boum, beaucoup d'âmes ont été amenées au baptême. Plus de 3000 baptêmes La Bible nous dit 3000, je crois même. Donc, Jonas n'est pas seulement un type de Jésus-Christ, mais il est aussi un type, ou un symbole, pardon, du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il doit vous convaincre du péché, et donc vous emmener à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui œuvre pour la conversion, et c'est aussi le Saint-Esprit qui scelle, comme la Bible nous dit dans Éphésiens. Maintenant, quel est le rapport, mes frères et sœurs, après qu'on a un peu déblayé ça, quel est le rapport, mes frères et sœurs, entre Jonas et la fin des temps? Jonas, mes frères et sœurs, représente aussi le dernier messager. Il représente, mes frères et sœurs, un type de dernier messager. Qui sont les derniers messagers qui vont terminer l'œuvre dans la Bible? Je vous invite à aller dans Apocalypse 14 à partir du verset 1. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que la Bible, c'est magnifique. Apocalypse 14, le verset 1 à 4, ou Révélation de Jésus-Christ. Chapitre 14, le verset 1, on va lire ensemble dans la version du second. On va lire ensemble. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec 844 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux et celles qui ne se sont pas souliés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ici, on nous parle des 144 000. Si vous voulez savoir si c'est littéral ou non littéral, je vous invite à regarder. J'ai fait une étude dessus qui est très simple et très claire, accessible à tout le monde. C'est sur YouTube, ça s'appelle les 144 000 et la grande multitude. Donc, dans cette étude-là, on voit très clairement, Bible en main, que les 144 000 n'est pas un chiffre littéral. Ça ne va pas décrire 144 000 personnes qui vont prêcher le message des trois anges. Et on nous dit que ces personnes-là avaient sur leur front le nom du Père écrit sur leur front. Ça ne sera pas non plus littéral, puisqu'ici on parle d'un point de vue symbolique, parce qu'on nous dit dans Hébreu que le front représente les pensées et le nom représente le caractère de Dieu, si vous lisez Exode 33 et Exode 34. Donc les 144 000, ce sont ceux et celles qui auront déjà le nom inscrit, c'est-à-dire qu'ils auront une vie parfaite en Jésus-Christ avant que Jésus-Christ arrive. Puisque Apocalypse 14 et Apocalypse 7 arrivent avant la moisson dans Apocalypse 15, si vous étudiez bien. Donc pour ceux et celles qui ne croient pas en la victoire du péché sur la terre, la Bible est très formelle. La victoire sur le péché, ça sera d'abord sur la terre, en commençant par la victoire du caractère. Et on nous dit qu'ils chantaient un cantique. Qu'ils chantaient, mes frères et sœurs, un cantique que personne ne pouvait apprendre, sauf eux. Et qui ne se sont pas souillés avec des femmes, les femmes représentant les églises. Dans ce contexte-là, les églises apostasiées qui ont été souillées. Et on nous dit qu'ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas souillés avec leur doctrine, qu'ils ne se sont pas souillés avec des alliances. Mais le plus important ici, c'est qu'ils suivent l'agneau partout où il va. L'agneau ici représente Jésus-Christ. Donc ils suivent Jésus-Christ partout où il est, c'est-à-dire ils suivent Jésus-Christ dans tous ses déplacements. Lorsqu'il était sur la terre, dans le lieu saint, et maintenant aujourd'hui dans le lieu très saint. Donc les 144 000 sont ceux et celles qui comprennent la vérité présente et qui ont expérimenté aussi cette vérité présentement dans leur vie. Et ils sont considérés comme étant les prémices de Dieu. Et verset 5, on nous dit que c'est des gens qui mentent par apprendre au sens littéral du terme. Donc les 144 000 ici, d'une manière très simple, décrivent quoi? Parce qu'on nous dit qu'ils chantent un cantique. et qu'ils ont le nom du Père inscrit, donc ils ont une vie qui représente parfaitement le caractère de Jésus-Christ. Ils représentent aussi ici, si je vous dis par exemple que vous chantez à la gloire de Dieu. Chantez à la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une adoration. Chanter pour Jésus-Christ, vous êtes en train d'adorer, c'est une forme d'adoration dans la Bible. Donc les 144 000, mes frères et sœurs, sont des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Ce sont ceux et celles qui auront compris, mes frères et sœurs, la vraie adoration. Et ça sera une partie entière dans leur vie, mes frères et sœurs. Des vrais adorateurs. Je ne sais pas pour tout, mais moi j'ai envie d'être un vrai adorateur, mes frères et sœurs. Maintenant, Jésus-Christ, dans Jean 14, le verset 24, nous décrit quelle est la définition d'un vrai adorateur dans la Bible. Et on nous dit dans Jean 14, le verset 4, pardon, dans Jean, oui, Jean 4, le verset 24, on dit, vous connaissez tous ce texte, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Exactement, mes frères et sœurs, comme Jonas. Parce que Jonas, mes frères et sœurs, signifie colombe, qui veut dire donc esprit. Et Amathai, qui veut dire vérité. Donc Jonas, mes frères et sœurs, représente un type de 144 000 qui vont prêcher un message particulier à la fin des temps. Et on va voir ensemble que Jonas a aussi prêché ce message. Le message particulier qu'on doit prêcher à la fin des temps, qu'on doit prêcher dans ces derniers temps, il n'y en a qu'un seul, c'est le message des trois anges. Et on va voir ensemble que, mes frères et sœurs, Jonas a aussi prêché ce message. Puisque Jonas, mes frères et sœurs, représente un type de dernier messager. Quel était le message du premier ange, mes frères et sœurs? Dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, la Bible nous dit « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. » Pause. Le message des trois anges, mes frères et sœurs, commence par l'évangile éternel. Si vous n'avez pas l'évangile éternel, le message des trois anges que vous prêchez est pourri. Vous savez qu'est-ce que c'est que quelque chose est pourri, mes frères et sœurs? C'est-à-dire qu'il est gâté. Si vous donnez une pomme qui est pourrie à quelqu'un, la pomme n'est pas mangeable. Ça sera toujours une pomme, mais elle sera gâtée. Donc prêcher le message des trois anges sans l'évangile éternel, c'est-à-dire sans la croix, mes frères et sœurs, ça n'apporte pas des conversions. Première étape, évangile éternel. Et on nous dit pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. C'est-à-dire que c'est un message qui est universel. On ne dit pas que le salut vient seulement des juifs. Que le salut est seulement pour les musulmans. Non, c'est un message qui est universel pour que toute langue, toute tribu, toute nation soit amenée à la connaissance du vrai Dieu. De verset 7, à partir du premier message, on nous dit « Ils aient d'une voix forte, craignez d'eux et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc ici, on voit le message du premier ange. Et ça commence, mes frères et sœurs, par craigner Dieu. Maintenant, on va aller dans Jonas 1, le verset 9. Jonas 1, le verset 9, on nous parle de Jonas. Et il va décrire qui il est. Et il va dire dans le verset 9, « Je suis un Hébreu. » Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire « Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ça ne vous semble pas familier, mes frères et sœurs? On parle ici du message du premier ange. Jonas était un homme qui craignait Dieu et qui adorait qui? Celui qui a fait les cieux, la mer et la terre, c'est-à-dire il reconnaît Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Jonas était un créationniste, mes frères et sœurs. Donc si vous venez faire partie des 144 000, vous devez être un créationniste. Message du premier ange. Maintenant, le message du premier ange, je parle de donner lui gloire. Donner du gloire, c'est-à-dire témoigner du caractère de Dieu dans notre vie. Pour moi, mes frères et sœurs, c'est le fondement même de notre message. Ou pardon, la résultante même du message. Le résultat du message des trois anges, en réalité, c'est simple. C'est amener des hommes et des femmes à rendre gloire à Dieu dans leur vie, mes frères et sœurs. Donc à être un témoignage. Maintenant, quel est le rapport avec l'histoire de Jonas? Vous savez que dans Matthieu 12, le verset 38, lorsqu'on nous dit, lorsque Dieu a dit, il nous sera donné de miracle que celui de Jonas. Le mot miracle, en grec, vous savez c'est quel mot? C'est le mot témoignage. Donc, lorsqu'on parle du miracle de Jonas, on parle en réalité du témoignage de Jonas. Autrement dit, la manière dont il a rendu gloire à Dieu dans cette histoire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le message du premier ange, donnez-lui gloire. Ensuite, on a la deuxième partie du message qui dit, dans le message du premier ange, qui dit, car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que le message du premier ange renvoie à quoi? Au jugement, qui n'est pas à venir, mais qui a déjà commencé. Vous savez que mes frères et sœurs, Jonas avait aussi un message de jugement pour Ninive. Dans Jonas 3, à partir du verset 4, Jonas 3 à partir du verset 4, lisons ensemble ce que Dieu a dit à travers Jonas. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc si je dis que Ninive va être détruite, c'est un message de quoi? De jugement qui va s'abattre sur la ville de Ninive. Car l'heure de son jugement est venue. D'ailleurs, si vous étudiez bien, et je vous invite à étudier un peu plus loin, je vous donne ça pour vous. Le verset 5, on nous dit qu'ils ont publié un jeûne. C'est dans quelle période, mes frères et sœurs, que les Israélites publiaient un jeûne? C'était quelle fête? Si vous lisez Lévitique 26, vous allez voir que c'était pendant le Yom Kippour, donc le jour d'expiation ou le jour du jugement. Il n'y a pas de hasard dans la Bible, mes frères et sœurs, car l'heure de son jugement est venue. Message du premier ange, adorez celui qui a fait la terre et la le ciel et la terre et la mer et tous les sources d'eau. On l'a vu lorsque Dieu, lorsque Jonas a dit dans Jonas 1, le verset 9, je crains Dieu, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc c'est un message de véritable adoration. Retourner à la véritable adoration, les frères. Donc on voit ici que Jonas n'était pas seulement un type de 144 000. Il n'était pas seulement un type de vrai adorateur, mais il avait aussi le message. Voyez-vous, il y a un point que je viens de voir. Lorsque vous êtes un messager, lorsque vous êtes, pardon, un vrai adorateur, vous avez forcément le message, mes frères et sœurs. Je vais répéter. Lorsque vous êtes supposément adorateur ou adoratrice de Christ, vous devez forcément avoir le message. Ça va ensemble. L'adoration et le message vont ensemble, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que si vous professez être adorateur du vrai Dieu ou adoratrice du vrai Dieu, mais que vous n'avez pas le message, alors vous êtes des faux adorateurs. Ou vous êtes des faux adorateurs, oui, avec un faux message. Parce que les deux, mes frères et sœurs, vont forcément ensemble. Donc, ici, Jonas est un type de dernier messager, un type de derniers adorateurs avec le bon message, le message des trois anges. Maintenant, on va voir le deuxième ange. Apocalypse 14, à partir du verset 8, la Bible nous dit « Et un autre ange suivit et dit « elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ». Donc le message du deuxième ange, c'est un message qui nous montre que Babylone est en train de tomber. Même on nous dit même qu'elle est tombée. Deux fois. Et on nous parle de Babylone la grande. Pourquoi la grande? Parce que c'était une grande ville. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, on nous parle à chaque fois de Babylone la grande, la grande, la grande ville. La grande ville. Maintenant, quel est le rapport avec l'histoire de Jonas? Le message du deuxième ange, c'est un appel à faire quoi? À montrer que Babylone est tombée et donc à sortir de Babylone. Ce n'est pas le message que Jonas a eu, mes frères et sœurs. Parce que Babylone symbolise d'abord Ninive. Vous savez qui a fondé Ninive, mes frères et sœurs? Vous savez qui c'est? D'abord, pardon, qui a fondé Babylone? C'est Nimrod. Nimrod, le fameux chasseur. Qui déplaisait à Dieu d'ailleurs. Parce que ça a commencé dans Genèse 11, lorsqu'il y a eu la tour de Babel qui est l'ancêtre de Babylone. Qui est les prémices de Babylone. Donc Nimrod, mes frères et sœurs, a fondé Babylone. Et a fondé aussi quoi? Ninive. Donc Babylone symbolise aussi Ninive. Maintenant, comment on peut prouver ça avec un autre témoin? Dans Jonas 1, le verset 2 et Jonas 3, le verset 1, vous savez quel adjectif on donne à la ville de Ninive? On dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Comme Babylone, la grande ville. Dans le livre d'Apocalypse 14. Dans le livre d'Apocalypse 16. Donc on voit ici un rapport qui est évident entre Babylone et Ninive. Donc on voit ici le message du deuxième ange que Jonas a prêché. Parce que c'était un vrai adorateur, mes frères et sœurs. Rempli du Saint-Esprit. Mais Jonas devait faire quoi à cette grande ville? Jonas 1, le verset 2 nous dit « Crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Vous savez, mes frères et sœurs, que le message du deuxième ange est accouplé avec le message du quatrième ange qui n'est autre qu'une répétition du message du deuxième ange, mais en amplifié. Parce que si vous étudiez bien le message du deuxième ange, vous allez voir que on nous dit « Et un autre ange suivi en disant. » On ne dit pas qu'il disait d'une voix forte. Mais par contre, dans Apocalypse 18, à partir du verset 1, on nous parle maintenant du même message qui est répété avec beaucoup plus de puissance parce qu'on nous dit que « Et un autre ange suivi disant d'une voix forte. » elle est tombée Babylone la grande. Et sortez de Babylone mon peuple. » Et on nous parle de cette de ce moment où la terre est éclairée de la gloire de Dieu, c'est-à-dire éclairée de son caractère. C'est pour ça que le message du deuxième ange est accouplé avec le message du quatrième ange, parce que c'est ce grand cri-là qui va être crié avec beaucoup plus de puissance qui va faire tomber définitivement Babylone. Et ici, mes frères et sœurs, dans l'histoire de Jonas, c'est en criant que Ninive est arrivé à la repentance. De la même manière que dans le message du deuxième et du quatrième ange, il y aura un grand cri qui sera lancé à pleine puissance parce que des hommes et des femmes maintenant seront un avec le message qu'ils prêcheront. Vous voyez mes frères et sœurs, je le répète, Jonas était véritablement un type de dernier messager, un type du vrai adorateur avec le vrai message. Et enfin, le troisième ange, et c'est le plus simple, on pourrait creuser, mais c'est le plus simple. Le troisième ange nous parle de quoi, mes frères et sœurs? Nous parle de la marque de la bête, mais surtout de la justification par la foi. On sait que Jonas a placé sa foi en Dieu. Au début, il était fébrile, mais par la grâce de Dieu, il a réussi en plaçant sa foi en Jésus-Christ, à prêcher le dernier message pour Ninive. Mais Jonas, mes frères et sœurs, est sorti d'un poisson. Autrement dit, est sorti de la bête. Donc, Jonas, mes frères et sœurs, est sorti d'une bête. Ça ne fait pas penser, mes frères et sœurs, au message du troisième ange aussi, en tout cas une partie, parlant de la marque de la bête, nous invitant à ne pas prendre cette marque, c'est-à-dire à prendre le sceau de Dieu, donc à sortir, mes frères et sœurs, de cette bête, à sortir de cette marque, à sortir de ce système. Donc ici, on parle du message des trois anges. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, que le message des trois anges, premièrement, est dans toute la Bible. Ça transpire tout le message des trois anges. Pourquoi ? Parce que le message des trois anges, avec le quatrième ange, ce n'est que l'évangile, mes frères et sœurs, compilé. C'est le dernier message qui va amener des hommes et des femmes à voir vraiment qui est vraiment Dieu, avoir la bonne conception de Dieu, avoir une bonne conception de quelle est la vraie adoration, virgule, donc il y a une fausse adoration. À inviter des hommes et des femmes qui sont à Babylone à en sortir. Voyez-vous, Babylone, ce n'est pas l'église adventiste. Il y a Babylone face à Israël littéral. Mais Israël, dans la Bible, que les gens ou pas ne sont pas d'accord, symbolise la dernière église, c'est-à-dire l'église adventiste du septième jour. L'église de la Odyssée. Donc on voit déjà deux camps, mes frères et sœurs. Alors comment on peut dire que l'église adventiste est Babylone ? Ça n'a aucun sens dans la Bible. Donc si vous sortez de Babylone, c'est pour aller où ? Dans Babylone encore ? C'est pas logique. Donc c'est le message qui amènera Jésus-Christ à revenir. Et on voit ici que ceux et celles qui prêchent le message ne le prêchent pas seulement, mais comme les 144 000 vivent ce message. Dans Matthieu 24, à partir du verset 12, on nous dit « Alors cet évangile sera prêché et servira de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. » Parfois, mes frères et sœurs, on dit qu'il suffit seulement de prêcher l'évangile pour que la fin arrive, mais on oublie l'autre partie du texte qui dit qu'il servira de témoignage. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne peut pas revenir tant, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas ce témoignage d'une manière véritable dans notre vie et manifeste chez tous les hommes. C'est le témoignage, mes frères et sœurs, couplé à la prédication de l'évangile, qui amènera Jésus-Christ à revenir. Vous ne pouvez pas dissocier les deux, mes frères et sœurs. D'ailleurs, on peut voir que le message est d'ailleurs prêché presque partout. Je dis bien presque partout. Mais pourquoi Jésus-Christ n'est pas revenu ? Est-ce que Jésus-Christ attend encore d'autres membres d'église, mes frères et sœurs ? Non, non, mes frères et sœurs, il attend plus de caractère pour que le témoignage soit encore plus manifeste. Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous invite véritablement. Si Dieu nous a donné tant d'exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau pour nous amener aux 144 000 et au vrai message qui emmène la moisson, c'est parce que Dieu désire, il plaide encore pour que vous et moi nous faisons partie de ce peuple qui aura, par sa grâce, aura prêché le bon message, aura compris ce message-là, mais l'aura prêché aussi, mais aussi par la grâce de Dieu, l'aura expérimenté dans sa propre vie. Une vie, mes frères et sœurs, que Dieu promet sans péché. Sans péché, mes frères et sœurs. C'est ce type de messager-là, ce type de vrai adorateur-là que Dieu attend de vous. Pas moins, pas plus. Pas moins, pas plus, mes frères et sœurs. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est la partie bonne de Jonas. Mais on oublie, mes frères et sœurs, que le livre de Jonas ne se termine pas si bien que ça pour Jonas. Dans le chapitre 4, vous savez ce qui se passe? Dans le chapitre 4 de Jonas, mes frères et sœurs, Jonas s'énerve. Il est en colère contre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie qu'il a annoncée, qui était une prophétie en réalité conditionnelle, dans la Bible il y a des prophéties qui sont conditionnelles, c'est-à-dire qui dépendent des circonstances ou du cœur des individus. Parce que les individus ont été emmenés à la repentance, à cause du message, Dieu n'a pas détruit Ninive. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a énervé Jonas. Jonas, au lieu de se réjouir que des hommes et des femmes, par la miséricorde de Dieu, soient amenés à la repentance, vous savez ce qu'il fait? Il s'est énervé. Pourquoi? Parce que ça l'a fait passer pour un Gandhi. Ça l'a fait passer pour un faux prophète. En tout cas, lui, du moins, il pensait ça. Donc, il y a un risque, mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui veulent faire partie de ce groupe. Il y a un risque, mes frères et sœurs, lorsque vous prêchez ce beau message, lorsque vous voulez le prêcher aux autres. Le risque, mes frères et sœurs, c'est que vous vous prenez la grosse tête. C'est qu'en prêchant ce message, au lieu de se réjouir qu'il y a des effets, vous pensez que le message en réalité vous appartient. Or, mes frères et sœurs, il n'y a rien sur cette terre qui vous appartient, ni à moi, ni à personne. Seulement une chose, nos péchés. Il n'y a que nos péchés, mes frères et sœurs, qui nous appartiennent. Le reste appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, rappelons-nous, mes frères et sœurs, lorsque nous voulons vivre cette vie, nous devons toujours nous examiner nous-mêmes et dire à Dieu, ô Père, préserve-moi dans l'humilité. Ce message ne m'appartient pas. Il t'appartient à toi et à toi seul. C'est-à-dire que les circonstances, le résultat du message, ne dépendent pas de nous, mais seulement de Jésus-Christ. Alors mon appel est très simple, mes frères et sœurs. Voulez-vous faire partie? Voulons-nous faire partie de ce Jonas-là qui a prêché et vécu une vie de vrai adorateur? C'est la question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs, en ce sabbat. Jonas, le dernier messager. Mais ça peut être, mes frères et sœurs, Ludovic, le dernier messager. Gabi, le dernier messager. Rhoda, le dernier messager. Kylian, le dernier messager. Johanna, le dernier messager. Eliane, Laurent. Aniel, le dernier messager. Ça peut être vous, mes frères et sœurs. Simplement, ça demande une seule chose. Une seule chose que Dieu désire, mes frères et sœurs. Le cœur de l'adorateur. Notre cœur, mes frères et sœurs, a besoin d'être saint, a besoin de la vérité pour le sanctifier, et a besoin surtout, mes frères et sœurs, d'être soumis complètement en Jésus-Christ. La clé, mes frères et sœurs, du succès de Jonas, ce n'était pas tant, mes frères et sœurs, Jonas, il n'y avait rien de particulier, c'était un peureux. Mais c'était, mes frères et sœurs, la fidélité à la réponse de la foi de Jonas. Donc voulez-vous, et voulons-nous, mes frères et sœurs, être comme ce Jonas? Je prie Dieu, mes frères et sœurs, pour que notre réponse soit oui. Moi, en tout cas, personnellement, oui. Ma famille aussi, j'ai envie, oui. Amen. Donc je vous invite à prier, nous avons terminé par la grâce de Dieu. On va demander à Dieu d'accomplir cette promesse dans notre vie. Par sa grâce et par sa grâce. Seul, et nous donner aussi la force, mes frères et sœurs, de partager ce message-là à notre jeunesse qui voit la Bible comme étant ennuyante à cause de nous-mêmes. Parce qu'on leur a présenté, mes frères et sœurs, un autre évangile, comme Paul disait. Prions. Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur Dieu, tu nous dis que ta parole est vérité. Alors, nous te prions de nous sanctifier par cette vérité, Père. Seigneur Dieu, nous avons vu la merveilleuse histoire de Jonas, qui nous permet peut-être de découvrir ou de redécouvrir qui tu es réellement. Tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui désire se révéler. Tu dis dans ta parole que les Écritures témoignent de toi, Père. Et nous l'avons vu par la grâce de Dieu. cette soirée. Nous avons vu aussi, Seigneur Dieu, que Jonas était un vrai adorateur. Mais la réalité des choses, Seigneur Dieu, c'est que nous ne sommes pas encore comme Jonas. Nous avons besoin d'être comme lui. Mais la première étape, Seigneur Dieu, c'est vouloir. Et tu nous as dit dans Philippiens 4, Seigneur Dieu, que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors convertis nos cœurs, Seigneur Dieu, d'un converti. Change nos cœurs afin, Seigneur Dieu, qu'ils deviennent des cœurs obéissants, soumis à toi en toutes choses. Prends le Père et fais de nous ce qu'il te plaira. Fais de nous, Seigneur Dieu, des Jonas, afin que nous puissions prêcher ce dernier message, et qu'aussi, Père, nous puissions vivre ce dernier message, et hâter ton retour, Père. Car notre seul désir, Père, comme disaient les Lévites, notre seul héritage, c'est Jésus-Christ lui-même. Que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont pu entendre ce message, ainsi que moi-même. Que tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit en ce saint sabbat. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et bon sabbat à vous tous.